La parole de Dieu en Matthieu 12, les versets 9 à 22. Jésus partit de là et se rendit dans leur synagogue. Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. On demanda à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien le jour de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus la prit et se retira de là. Beaucoup le suivirent, il les guérit tous, et il leur recommanda de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume. » Jusqu'à ce qu'il ait donné la victoire à la justice, et les nations espéreront en son nom. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Asseyons-nous. Permettez-moi de demander à Dieu qu'il ouvre nos oreilles, nos yeux et nos cœurs pour que nous recevions ce qu'il veut nous dire. Dieu bon, Dieu patient, si tu choisis de nous parler par ta parole, ce n'est jamais pour ne rien produire en nous. Si tu nous parles en détail du ministère de Jésus-Christ, c'est pour nous former. Alors donne-nous d'être réceptifs à ce que tu veux faire en nous ce matin. Façonne-nous afin que nous soyons un peuple serviteur à l'image de ton serviteur Jésus. Et permets ainsi qu'à travers nous, les Parisiens soient subjugués par ton immense bonté. Au nom de Jésus-Christ, en qui nous trouvons les moyens dont nous avons besoin. Amen. Comment est-ce qu'on fait face au rejet en tant que chrétien ? Et ce matin, nous allons même évoquer un rejet virulent, qui est d'actualité. Il ne vous a sans doute pas échappé qu'à notre époque, en Occident, Jésus-Christ est vu comme quelqu'un non plus inoffensif, comme ça a pu être le cas autrefois. Non, j'ai l'impression, et je ne suis pas le seul à le penser, que Jésus-Christ est désormais vu comme quelqu'un de dangereux, voire quelqu'un de nuisible. Quelqu'un qu'on gagnerait à dégager de force, et avec lui tout ce qu'il reste de la morale judéo-chrétienne. Comment est-ce qu'on fait face au rejet en tant que chrétien ? Dans ce passage, un rejet virulent s'exprime envers et contre Jésus, mais encore, on va y trouver une réponse au rejet. Pour commencer par le rejet, disons d'emblée qu'il est inouï, tellement l'initiative de Jésus était bienfaisante. Et je compte bien que les chrétiens qui seraient parmi nous ce matin, les non-chrétiens qui seraient parmi nous ce matin, ou qui évoluent dans nos cercles, soient troublés par ce passage. Il faut voir en effet combien la démarche de Jésus est méprisée contre toute évidence. Il va bien falloir examiner l'hypocrisie avec laquelle Jésus est traité, ou plutôt maltraité. C'est moche, mais c'est bien comme ça que ça se passe, encore et toujours. Et figurez-vous que si le rejet que Jésus subit est inouï, il en va de même pour la réponse au rejet. Normalement, quand on est rejeté, on veut rejeter en retour, et on en aurait le droit. Mais là, le rejet est accueilli par Jésus, avec une réserve inouïe. Il a guéri sans arrière-pensée. Pour la suite, il ne contestera pas. Les chrétiens parmi nous ont besoin de prendre la mesure du rejet envers Jésus afin de savoir à quoi s'en tenir, si et quand leur Jésus est maltraité sur la place publique. Et ils ont aussi besoin de prendre la mesure de la réaction de Jésus afin de se résoudre, eux aussi, comme lui, à une grande réserve dans leurs interactions. Que Dieu nous vienne en aide. Mais avant d'en arriver là, penchons-nous d'abord sur les versets 9 à 14, à partir desquels nous prendrons notre premier point. un bienfait rejeté. Un bienfait rejeté. Regardez le verset 10. Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Avec une pareille question, on plane. Qui fait des guérisons, je vous le demande? Est-ce que ça court les rues? Jusqu'à ce que Jésus arrive sur la scène publique, cette question était entièrement hypothétique. Là, pour une fois, les pharisiens ont en Jésus quelqu'un qui vide les hôpitaux du coin. C'est du jamais vu en Palestine. Et au lieu d'en être bouleversés, les pharisiens, puisque dans le contexte, c'est eux qui dominent ce chapitre 12, ces pharisiens trouvent encore à lui demander s'il est permis de faire une guérison le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour du repos. On a là un prétexte pour rejeter Jésus, et l'évangéliste Matthieu ne s'y trompe pas, il conclut le verset 10 ainsi, « C'était pour pouvoir l'accuser, bien sûr. » La réponse de Jésus va faire ressortir combien la réponse à leur question était évidente. Évidemment qu'un bienfait est bienvenu un jour de sabbat. Évidemment qu'on est censé entrer dans une bonne œuvre quand on en croise une, quand elle se présente d'elle-même à nous. Vous remarquerez que dans son échange, il n'est pas question de multiplier ou de justifier absolument toutes les bonnes œuvres, tous azimuts, avec une frénésie qui ne correspondrait pas au sabbat. Mais il s'agit de se rendre à l'évidence. Si on a sous les yeux une bonne œuvre à faire, il faut évidemment la faire, sans chercher plus loin. Jésus prend l'exemple de celui qui possède un animal, une brebis. Celui qui n'a qu'une seule brebis, comme le dit le texte, il l'a toujours sur les yeux, bien sûr. Il ne peut pas ne pas remarquer sa détresse, même un jour de sabbat. Et c'est bien l'argument au verset 11. Celui qui aurait 100 brebis, par contre, ne les aurait jamais toutes sous les yeux en même temps. Pour le coup, pour cet homme-là, entreprendre de faire le tour du cheptel un jour de sabbat, ça irait chercher trop loin, ça le détournerait plutôt du sens du sabbat. Et dans le cas présent, Jésus n'est pas allé chercher loin. En entrant dans cette synagogue de pharisiens, il n'est pas allé dans les coins. On lui a mis sous le nez un monsieur, une brebis à la peine. Cet homme-là connaissait sans doute un malaise. Peut-être en avait-il perdu le goût du sabbat depuis un certain temps. Comment Jésus aurait-il pu célébrer le jour du repos à ses côtés sans soulager cet homme, si c'était en son pouvoir de le faire? La belle œuvre, finalement décrite au verset 13, est évidemment justifiée. Dans un contexte aussi hostile que celui de cette synagogue-là, l'esprit des gens n'était sans doute pas au repos. Ils cherchaient un prétexte pour l'accuser. Mais qu'importe l'hostilité environnante, l'hésitation n'est jamais permise, même quand il s'agit de bénir. En Exode 23, au verset 5, n'était-il pas écrit en effet « Lorsque tu verras l'âne de celui qui a de la haine pour toi succomber sous sa charge et que tu hésiteras à le décharger, tu le déchargeras avec lui. » Dans une synagogue hostile, Jésus n'a pas hésité à décharger l'un d'entre eux. Il va donc décharger, quand bien même ses membres de la synagogue le haïssaient. Qu'importe. Et ce geste sans arrière-pensée, ce beau geste, va signer son arrêt de mort au verset 14. C'est peu dire qu'un bienfait est rejeté, un bienfait est rejeté. Et quand on y réfléchit, c'est fou qu'un bienfait puisse provoquer le moindre rejet. Et pourtant, est-ce que ça ne caractérise pas beaucoup de nos contemporains? Car qu'est-ce que Jésus leur a fait de mal? Pour quelle belle œuvre veulent-ils dégager Jésus de force de notre civilisation? Nos contemporains aiment à penser qu'ils sont objectifs, qu'ils se rendent aux évidences quand et si il y en a. Mais est-il permis d'en douter? Il n'y a pas si longtemps, un ami en Amérique du Nord me parlait d'une question qu'il utilise au tac au tac avec des non-croyants dans des conversations. La voici. Et si Jésus avait vraiment fait ces miracles-là que je te présente, est-ce que tu croirais en lui? Et fréquemment, la réponse qu'il obtient au tac au tac est négative. Non, je ne croirais pas en lui. Et c'est parce qu'il y a des présuppositions très fortes qui sont en place, qui font que beaucoup ne veulent pas croire en Jésus. Alors, est-ce que vraiment nos contemporains seraient de meilleure volonté que ces pharisiens endurcis? Est-ce qu'ils se rendraient aux évidences quitte à changer d'opinion du tout au tout sur Jésus et sur eux-mêmes. Ou est-ce que la défiance serait la plus forte? Les pharisiens auraient dû se rendre compte qu'ils n'avaient plus de raison de se défier de Jésus. Ils n'étaient pas trop loin et la preuve, c'était qu'ils venaient de bénir puissamment l'un d'entre eux. Avec un geste miraculeux sous les yeux, ils pouvaient y croire. Avec un geste aussi favorable, ils auraient même pu vouloir y croire. Mais ils n'ont rien voulu entendre, tellement ils aimaient être en charge de leur propre camp. Et ils ont souhaité la mort du bienfaiteur perturbateur. Ce genre d'enchaînement, ce genre de logique qui conduit à mettre à mort un bienfaiteur est aussi édifiant qu'il est inouï. Je crois que ce passage va nous aider à prendre conscience qu'il est possible d'être tellement endurci envers Jésus qu'on ne le reconnaît plus pour qui il est. On se trompe sur les évidences qu'on a sous les yeux. Et qui sait, parfois il suffit de voir qu'une présupposition est à l'œuvre en soi pour en être dégagé. Et c'est ma prière pour ceux d'entre vous qui sont peut-être sur la réserve par rapport à Jésus. Si c'était seulement Jésus qui se faisait mépriser, contre toute évidence, peut-être que les lecteurs de l'Évangile selon Matthieu parmi nous pourraient se faire une raison et se dire que ça s'arrête à sa seule personne, mais il n'en va jamais seulement ainsi. Dans le rejet envers Jésus s'exprime aussi un mépris des autres. Car ceux qui rejettent Jésus avec virulence en arrivent à se moquer d'en garder quelques autres asservis ou incapacités. Ils ont résolu que Jésus doit périr, et dès lors peu leur importe qu'il fasse du bien, qu'il ait fait du bien à qui que ce soit, même parmi eux. Remarquez ce détail important au verset 9. Jésus est dans leur synagogue. Autrement dit, cet homme à la main paralysée est l'un des leurs. Il est connu de ceux qui sont là. Et ils sont là à discuter de savoir si on a le droit de lui faire du bien. Ça leur fait ni chaud ni froid qu'un des leurs soit en peine un jour de plus. Et ensuite, ils le poussent, imaginez-le là, sur le devant de la scène. Qu'est-ce que c'est que cette manière de traiter cet homme? Est-ce que ce n'est pas une manière de se jouer de celui qui, dans leur propre rang, est asservi, incapacité, malheureux? En prenant conscience de ce genre de maltraitance, peut-être que certains d'entre nous ce matin vont décider de se désolidariser de groupes qui ne veulent pas leur bien, finalement. Vous avez peut-être nourri une résistance sourde, confuse envers Jésus jusque-là, mais n'en restez pas là, je vous en prie, puisque vous constatez à partir du récit que nous avons lu que Jésus est bien le seul à vouloir du bien à tous, quels qu'ils soient, de quelque camp et quelque bord qu'ils viennent. Est-il possible, par contre, qu'encore aujourd'hui, les groupes de pression qui font bloc contre Jésus et contre son enseignement ne veulent pas du bien aux individus de leur propre camp? Ici et là, dans leur propre rang, il y a quantité de roseaux cassés, de lumignons qui fument encore et qui s'occupent d'eux. Pas eux. Rien n'a changé depuis cet épisode, je crois. À ce jour, il y a quantité de gens malheureux au sein de communautés très religieuses, très asservissantes. Comme il y a quantité de gens malheureux du côté de communautés très libérées, très débridées, de tous côtés, vraiment, et qui s'occupent d'eux. Si seulement tous ces malheureux pouvaient comprendre qui, entre tous, leur veut du bien. Et je compte bien que les chrétiens parmi nous soient mobilisés dans cette direction-là, eux aussi. Voulez-vous bien insister auprès de vos collègues, voisins, cousins et amis que Jésus n'a pas d'intention cachée, pas d'arrière-pensée, il leur veut du bien, quel que soit leur passif. Mais d'abord, allons-nous nous donner comme mandat de sortir des individus, des ornières dans lesquelles ils ont marché jusque-là? Je pose la question parce que parfois il me semble que dans les milieux chrétiens, prêcher la justice dans notre coin nous intéresse plus que rejoindre là où ils sont, les gens qui ne savent plus reconnaître leur droite de leur gauche. Méditons alors ceci, Jésus est entré dans leur synagogue pour en bénir au moins un d'entre eux. Est-ce que nous serions prêts à entrer dans ces lieux qui entretiennent une détestation de Jésus-Christ, tel club, tel bar, tel café, telle réunion publique, tels hémicycles? Est-ce que nous voudrions bien y entrer pour y faire du bien à quelques-uns, dans la mesure où ça nous est donné? Avant de nous concerner, et on y reviendra, la diversité de ses opposants a rendu à Jésus la tâche délicate. Il a eu beau être rejeté publiquement pour ce qui était évidemment un bienfait, il a eu soin de ne pas rejeter tous ses opposants en bloc à son tour. Et comme toujours, Jésus a bien fait. Plus tard, un pharisien du nom de Nicodème ne serait-il pas le premier à prêter allégeance au Christ ? Et une grande foule de sacrificateurs ne serait-elle pas là à obéir à la foi, comme nous le rapportent les Actes, au chapitre 6, verset 7, une foule de sacrificateurs, même des pharisiens. La démarche de bénédiction envers et contre tout est gagnante. Encore faut-il, dans le moment, trouver la force d'endurer un rejet choquant. Eh bien, cette force, c'est Dieu qui la donne, avec la déclaration qui figure au verset 18. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. » Frères et sœurs, si nous allons marcher dans les pas de Jésus, il va nous falloir entendre ce genre de paroles et l'entendre encore pour faire face à un rejet inouï. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. » Et ça nous amène à notre deuxième point, à partir des versets 15 à 22. Un devoir de réserve. Un devoir de réserve. Jésus va finalement s'astreindre à céder la place. Le verset 15 nous apprend qu'il se retire. Et voilà de quoi accomplir les paroles d'Ésaïe, a priori, notamment celles qui figurent au verset 19. « Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. » Ce genre de langage correspond très bien au personnage de Jésus, vous en conviendrez. On pourrait en rester à lui, et on pourrait longtemps méditer ce matin ce qu'il y a d'extraordinaire pour lui d'exercer de la réserve. Notre admiration de sa personne en serait grandie, certes. Sauf qu'on raterait un verset au passage. Entre le retrait de Jésus au verset 15 et l'accomplissement d'Ésaïe au verset 17 et suivant, il y a un verset, le verset 16. Et la citation d'accomplissement de la parole d'Ésaïe se rattache d'abord à ce verset 16. Autrement dit, ce n'est pas la seule réserve de Jésus qui va accomplir la parole d'Ésaïe. C'est aussi la réserve de ses supporters qui va l'accomplir. C'est un travail d'équipe. Et je crois que c'est crucial pour l'application que nous allons faire de ce second point. Elle va être plus directe, plus personnelle que l'on ne croit. Le devoir de réserve, il nous concerne au moins autant qu'il concernait Jésus. Jésus savait trop bien comment les idées seraient montées à la tête de ses supporters. Il ne pourrait pas se laisser aller à exalter ses bienfaits, ses miracles, et dans la foulée, rester fidèle au genre de service que lui avait en tête. Alors il les a repris au verset 16, pour mieux les façonner à son image, pour mieux les conformer à lui, pour qu'ils soient dans son équipe, avec sa manière. Sauf à quoi la parole d'Ésaïe n'aurait pas été accomplie. On aurait eu une guerre civile en Palestine. Car il faut bien voir qui la parole d'Ésaïe 42 concerne. Israël. Dans son contexte original, le serviteur d'Ésaïe 42, comme celui du serviteur, d'Ésaïe 44, c'est le peuple d'Israël. Ce serviteur, Israël, était censé être la lumière du monde. Et logiquement, Jésus redira au peuple qui l'écoute en Matthieu 5, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Rien d'étonnant à cela. Jésus voulait que tous ceux qui s'accrochent à lui, tous ceux qui seraient Israël avec lui et en lui, soient au rendez-vous en termes de lumière. Et il les voulait aussi au rendez-vous en termes de justice. En particulier, par ses instructions au verset 16, Jésus comptait bien qu'un reste d'Israël réponde au rejet comme il convient, avec réserve. Vous voyez, au final, la belle réponse qui ressort des versets 15 à 21 ne concerne pas seulement Jésus autrefois, elle concerne ceux qui sont Israël avec lui, elle concerne l'Église, elle nous concerne si nous sommes chrétiens. Mais certains d'entre vous me demanderont quand même dans quelle mesure nous serions vraiment appelés à la réserve. Il est vrai que l'instruction de ne pas rendre Jésus manifeste au verset 16 ne tient plus en tant que telle. Elle relève de ce qu'on appelle parfois le secret messianique dans les évangiles. Or, le secret n'en est plus un, il est le Christ. Et qui plus est, les chrétiens sont explicitement appelés à faire connaître le Christ. Ce n'est donc pas dans le silence que nous allons accomplir la parole d'Ésaïe à notre tour. Mais si ce n'est pas en silence, nous sommes néanmoins encore appelés à la réserve. Et voici comment. Si en et avec Jésus, nous voulons être un peuple serviteur bien-aimé de l'Éternel, alors la manière qui était la sienne doit être la nôtre. Et là, je crois que les chrétiens parmi nous ont matière à être repris. Attention à ne pas écraser qui que ce soit avec nos gros sabots, sous couvert de prêcher la justice à un monde qui ne sait pas reconnaître sa droite de sa gauche, un monde qui méprise les évidences. Question, est-ce que nous ne sommes pas beaucoup plus volontiers dans la polémique, dans le jugement, que Jésus ne l'était lui-même ? Est-ce que nous ne montons pas au créneau, au moins par écran interposé, avec beaucoup trop d'agressivité ? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de penser que faire valoir nos muscles lors d'une manifestation vaut mieux que faire preuve de douceur ? Quand nous apprenons que l'Arménie, un pays majoritairement chrétien, est assaillie par les Turcs, qu'est-ce qui nous passe par la tête ? Soyons honnêtes, personnellement, dans les 6 derniers mois, nous est-il vraiment arrivé de tendre l'autre joue, avec grâce, par exemple lors d'une conversation difficile, à la cantine, avec ce collègue qui vous affiche comme chrétien ? Vous connaissez comme moi l'actualité parlementaire. Eh bien, quand nous nous prononçons sur toutes sortes de sujets éthiques, est-ce que nous adoptons la réserve qui conviendrait ? On parle sans partialité et sans faire exception de personne, c'est bien. Mais est-ce que nous réfléchissons assez au profil des personnes qui en viennent à nous entendre ? Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas autour de nous quantité de Françaises qui ont eu un avortement autrefois ? Et nous serions là, tambour battant, à lancer le terme infanticide dans les réseaux sociaux, comme un slogan. Où est notre réserve envers des lumignons qui fument encore, peut-être, sans doute ? Ou est-ce qu'il n'y a pas dans nos bureaux des gens qui sont dans des concubinages malheureux et dans d'autres pratiques sexuelles malheureuses dont ils n'arrivent pas à se dépêtrer ? Et nous serions là à lancer le terme abomination sans sourciller. Où est notre réserve ? Eu égard à des roseaux cassés. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons bien être sensibilisés à nos prochains, à leur détresse, à leur confusion, confusion dont ils n'ont pas toujours une bonne intelligence eux-mêmes ? Je l'ai dit, le silence n'est plus une option pour nous, mais la réserve est encore de rigueur au sens de la compassion. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de roseaux cassés français qui ne seraient jamais trop loin de nous rejoindre, parce qu'ils savent confusément où est le bien. Mais quand ils voient des chrétiens sans compassion, non merci. Quand ils voient une catosphère qui réagit au quart de tour, non merci. Quel peuple serviteur sommes-nous, alors devant les dieux, devant Dieu et devant les hommes ? Croyons-nous vraiment que c'est en criant haut et fort, plus fort que les autres, que sa justice va triompher parmi les nations ? Notre désarroi dans un drôle de monde est bien réel. Bien sûr qu'on frémit quand on voit le règne de l'injustice. Bien sûr qu'on veut ardemment la justice. Mais comment s'y prendre ? Eh bien, il nous faut faire confiance au serviteur Jésus-Christ sur la manière qui est agréable à Dieu. Est-ce que nous voulons bien être tout à la fois plus réservés et plus présents envers les individus singuliers qui nous entourent et qui nous écoutent ? Cette approche s'applique au niveau interpersonnel, bien sûr, mais elle peut et elle doit se décliner à tous les niveaux de notre engagement chrétien. Certaines institutions y arrivent bien, pour autant que je peux en juger. Par exemple, la manière dont une ONG chrétienne comme Porte Ouverte communique, au moins au Royaume-Uni, auprès des parlementaires, est remarquable de délicatesse et de lucidité. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. » Ce sont de belles paroles, la voie qui est inaugurée par Jésus en Matthieu 12 est juste et bonne, vous me l'accorderez. C'est peut-être juste et bon, me direz-vous d'ailleurs, mais qui a les moyens de s'en tenir à pareil service? On prendrait des balles et on ne rendrait pas l'appareil, c'est impossible. Historiquement, effectivement, le peuple d'Israël a été un échec dans cet aspect-là. Ils n'ont pas voulu marcher dans les voies de Dieu pour être la lumière du monde et la justice de Dieu envers et contre tout. Alors qu'est-ce qui pourrait faire croire aux chrétiens parmi nous que nous sommes mieux partis pour être lumière dans un monde de ténèbres? Eh bien, il y a une clé à la toute fin de notre passage. C'est le verset 22. Relisons-le. « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. » Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ce verset vient faire ici, juste après une citation d'Ésaïe 42 sur la vocation du serviteur Israël. Eh bien, écoutez comment le chapitre 42 d'Ésaïe se poursuivait au verset 18 et 19. « Sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd, comme mon messager que j'envoie ?» Là, il est question d'Israël, bien sûr. « Qui est aveugle, comme celui qui a trouvé la paix, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. » Israël, autrefois, a été un serviteur odieux auprès des nations, incapable d'être une bénédiction pour ces nations. Et le peuple, qui est l'Église, n'est pas intrinsèquement meilleur. Mais avec Jésus-Christ, il s'est passé quelque chose. Un miracle d'entendement, comme celui qui est rapporté au verset 22. Le peuple de Dieu était jusque-là sourd et aveugle, insensible, qu'à cela ne tienne. Avec ce verset, Jésus suggère qu'il a les moyens d'ouvrir les yeux d'un peuple aveugle. Son ministère, sa mort et sa résurrection ne vont pas manquer de façonner un serviteur, un Israël, qui sera enfin sensible à la confusion du monde. Enfin. Le miracle rapporté au verset 22 illustre que tout allait changer sous peu. Sachez-le bien, depuis 20 siècles, il est possible de tendre l'autre joue. Il est possible d'aimer nos ennemis. Il est possible d'être sensible à des lumignons qui fument autour de nous. Il est possible de montrer une compassion sans arrière-pensée envers des gens qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche. Qu'est-ce que nous attendons pour nous y mettre? Le ministère, la mort et la résurrection de Jésus ont équipé nos cœurs pour ce genre de service. Il n'y a pas mieux que des anciens aveugles pour avoir compassion de bras cassés. Laissons-nous donc façonner, laissons nos cœurs être façonnés par Jésus-Christ, pour que en lui et avec lui, nous soyons enfin un peuple serviteur pour notre Dieu. Que Jésus-Christ lui-même nous vienne puissamment en aide, qu'il nous donne de toujours répondre au rejet avec grâce et